Vous écoutez
RMC.
RMC.
Vous savez qu'on peut commencer la compétition sur des échappeaux de roue. Aujourd'hui, ça paye ses fruits.
Si je devais expliquer mon style de jeu à quelqu'un qui me connaît pas, je dirais d'allumer la télé.
Tu penses que je vais te répondre quoi? Il pleurait, on l'a mis la tête dedans.
Just take the pleasure with my teammate and give.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous. L'after est là jusqu'à minuit, bien sûr, comme tous les soirs. L'after est en direct tous les soirs de l'année. L'after est en direct pendant l'été, pendant les fêtes de fin d'année. On est là tout le temps. Pendant la Coupe du Monde, pendant la CAN, bref, c'est une nouvelle saison qui démarre. Et Kevin Diaz, évidemment, est là. Salut Kevin.
Salut Gilbert, salut à tous.
Daniel Riolo est là également. Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
Salut Daniel.
Nous sommes en direct sur RMC, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de l'After, évidemment. Nous sommes en direct sur After Foot TV. Toujours là, l'After Première Radio de France. Le soir après le match Fenerbahçe-Lyon qu'on va analyser ensemble. On parlera également de Mercato. On parlera de l'actu de notre belle fédération également tout à l'heure, de ce qui se trame en coulisses entre FFF, FIFA. Bref, il se passe plein de choses. Évidemment, comme toujours, le football, vous le savez, a plus d'imagination que nous. Et même en plein été, l'actualité est brûlante. Le numéro WhatsApp de l'After est toujours dispo. 0612 424 424. Le 3216 également. Max, toujours là, vous attend. Bien sûr, Max qui n'a pas pris de vacances apparemment. Bon, cela dit, pendant l'année, il ne fait déjà pas grand chose. Donc je ne sais pas ce qu'il aurait fait en vacances, Max. Tu penses qu'il serait peut-être parti à Nantes chez lui?
Ouais, il répond au téléphone, non?
Il va à la boule.
Il répond au téléphone, exactement.
Il va à la boule.
C'est pas trop le genre la boule, Max.
Ah ouais?
Non.
Pourquoi la boule? Pourquoi tu veux l'envoyer là-bas?
Moi, je ne sais pas, c'est pas très loin de Nantes.
Qu'est-ce qui te fait dire ça?
C'est pas très loin de Nantes.
Il faut trouver un autre endroit pour Max près de Nantes, mais ouais. Un peu plus popu.
Il n'y a pas un lac.
On va trouver. Je ne sais pas si vous connaissez bien la région. Faites quelques propositions. Bon, allez, les 3 points quand même, parce que c'est un match important ce soir. Donc ça mérite 3 points. Jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Kevin, c'est toi qui commence.
Bah écoute, le premier point, c'est le très bon résultat de l'Olympique Lyonnais. Même si on aura le temps d'en reparler, il y a eu, je pense, 2 matchs dans cette rencontre, avec une première et une deuxième mi-temps assez différentes. Et ce sera mon deuxième point, parce que Fenerbahçe et ses individualités, et son individualité notamment, a quand même réussi à revenir dans ce match dans le deuxième acte, et aurait pu l'emporter à la fin sur notamment le poteau. Et en 3, bah, c'est quand même Lyon qui, je pense, est bien placé. On disait hier avec David Guzman que Lyon était à 50-50, 55-45, mais qu'en tout cas ils n'étaient pas décrochés dans cette confrontation, et je pense qu'ils ont été à la hauteur de ce match aller.
Daniel.
Bah, moi, le premier point, je vais vous dire, je suis pas sûr que ce soit un bon résultat. Je sais pas si je dis ça parce que, et c'est mon point, j'ai beaucoup de regrets. Je pense que Lyon, il y avait matière à faire mieux ce soir. Mon point 2, cette équipe de Fenerbahçe, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me faudrait un topo sur le football turc. Je ne comprends pas l'idée, ce qu'ils veulent faire, comment ils construisent les clubs, et en plus suite, ce que ça donne sur le terrain. Bref, en tout cas, je reviens, ce sera mon point, et à travers le point 2 aussi, vraiment, ça me foutrait les nerfs que Lyon se qualifie pas contre cette équipe-là. Puis le point 3, bah, c'est les petites affaires de notre football, et surtout pas que de notre football, du football international. Avec la FIFA, on est dans un été, mais de feu autour de ces questions-là. Il va falloir qu'on déblaye un petit peu tout à l'heure.
On va le faire en effet. Et puis tiens, j'en appelle à notre auditeur fidèle, fan de Fenerbahçe,
Hussein, qu'on a
régulièrement avec nous.
Ce serait bien qu'il nous raconte
en effet, oui.
Mais je te jure, j'ai pensé à lui au moins toute la première période, parce que j'étais là devant la télé à ruminer. Non, mais c'est pas possible de construire des équipes pareilles.
L'effectif qu'ils ont, Fenerbahçe, c'est incroyable.
Il y a 50 joueurs. Il y a 50 joueurs, tu comprends rien. Et puis, c'est bien
beau de les assembler. Stéphane Guy disait tout à l'heure que Under, ouais, l'ancien Marseillais, il est même pas inscrit sur la liste des Coupes d'Europe.
Et Amrabat, c'est pareil, il y a Amrabat aussi. Ouais. Oui, mais elle était là, tu te dis, mais en fait, ils veulent faire quoi? Et puis après, j'étais là, je dis, attends, t'es en train de regarder Lyon, là, concentre-toi sur Lyon, Fenerbahçe. Je sais pas, j'ai divagué pendant 10 minutes en essayant de comprendre la politique sportive des clubs.
Alors, on va en parler de Fenerbahçe tout à l'heure, mais Lyon pour démarrer. Donc Daniel doit utiliser des regrets. Alors c'est vrai que franchement, qui se qualifie pas la semaine prochaine là avec ce qui s'est passé ce soir, ce serait franchement ralent quoi.
Bah, et c'est pour ça que j'ai pas envie de traîner les regrets une semaine de plus. Ce soir, j'en ai. Kevin, toi, tu parles d'un bon résultat. Ouais, dans la Coupe d'Europe à l'ancienne, ça aurait été un bon résultat, un partout. Mais là, 0-0, un partout, 2-2, peu importe. Il n'empêche que cette équipe-là, tu ne pourras l'éliminer la semaine prochaine que si tu l'as battue. Et là... C'est pas que j'y crois pas, évidemment.
Après, on peut pas dire non plus que Lyon aurait mérité forcément de gagner aujourd'hui. Le match nul, c'est plutôt mérité.
Je te dis pas que le constat me pousse à dire que Lyon méritait. Je pense que Lyon est venu probablement en se disant, il va falloir qu'on résiste. C'est bien si on arrive à gérer. C'est bien si on arrive à canaliser la fougue adverse. Je pense qu'on s'imagine toujours des choses qui finalement arrivent très peu quand tu joues en Turquie. Bon, il y a des périodes où ok, Galatasaray, il y a une meilleure équipe et tout. Mais pour le reste, on fait un peu beaucoup de cinoches. Ok, oui, c'est vrai, il y a une grosse ambiance, mais les équipes sont pas si fortes. Et j'ai l'impression qu'on se monte un peu le bourrichon et que Lyon s'est peut-être dit bon, nous, on sait pas trop où on en est. Nous, si on a la pression. L'équipe, on ne sait pas trop ce que ce sera dans une semaine. Tu sais, c'est la période, elle est à se monter un petit peu la tête autour de l'OL. Et ouais, il va y avoir l'ambiance, ils vont te mettre le feu, il y a quand même beaucoup d'individualité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et pendant que tu te poses les questions, tu es là, tu regardes le match, tu dis mais attends, oh l'OL, mais vous êtes meilleur. En face, tu as une équipe qui est incapable de changer de rythme. Si vraiment tu leur rentrais dedans, moi je pense Lyon pouvait revenir avec la victoire. Alors, je te le redis, je ne dis pas qu'ils méritaient la victoire. Je dis que s'ils avaient forcé avec une autre approche, je pense qu'il pouvait gagner ça.
Ouais, ouais. Non, mais ça j'entends ce
que
tu dis.
Je comprends ce que je veux dire. Il y a une nuance.
Ouais, j'entends ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, presque Lyon a trop respecté cette équipe parce qu'ils étaient à l'extérieur, parce qu'il y a des gros noms.
C'est ça. C'est peut-être craint plus que respecté. Ouais.
Ouais, non, mais
ils ont un peu craint en se disant ils vont nous mettre le feu. Bah, tu t'attendais pas au fameux quart d'heure de feu dans les premières minutes. Ils sont incapables de le faire. Ils ont pas les jambes. T'es avec des trentenaires. Ils vont te le mettre comment le rythme?
Non, mais c'est sûr que cette équipe de Lyon a réussi son entame de match, a réussi à perturber Fenerbahçe et surtout à ouvrir la marque. Donc dans ce genre de match, quand tu ouvres la marque, quand même, tu prends un avantage psychologique. Mais après, malheureusement, les Lyonnais ont un peu arrêté de jouer, comme c'est souvent le cas. Quand t'as cet état d'esprit en mode bon, un point c'est bien, on va essayer de maintenir le 1-0 et au pire si on se fait égaliser, bah on finira le boulot à domicile. Mais si t'es une grosse équipe, tu t'essayes d'enfoncer le clou et de leur en mettre deux ou trois.
Exactement. Quoi. C'est là que je suis d'accord, parce qu'en fait, cette équipe, on peut la critiquer, l'assemblage de joueurs, comment ça joue et tout. Mais t'as vu ce qui s'est passé sur l'égalisation. En fait, elle est, moi je dirais presque collectivement, elle est quasi incapable de marquer un but. Sauf que t'as toujours un gars dans leur équipe. Bah, en l'occurrence, là, c'est Greenwood. Bon, il nous a fait la spéciale Vélodrome. Ses jambes vont à 2000 à l'heure. Bim, frappe lucarne. Et ça, au retour, sur un contre, un corner, s'ils font jouer Lukaku. Tu sais, ils ont tellement de mecs qui ont de l'expérience, roublardise, et qui sont quand même, à la base, quand même tous des très bons footeux. Si toi t'es un peu maladroit, tu peux te prendre le mur. Alors que globalement, je pense qu'il y a plus de qualité à l'OL, il y a plus de qualité collective.
Disons que l'OL c'est quand même une équipe beaucoup mieux rodée.
Regrets la semaine prochaine, quoi.
L'OL est une équipe beaucoup mieux rodée avec des principes. Alors on l'avait pas vu au match aller contre le Sparta, mais on l'avait vu quand même mieux au match retour et on l'a vu aujourd'hui. Une équipe avec beaucoup de joueurs qui jouaient ensemble déjà l'an dernier, même s'il y a des retours de blessures, c'est des gars qui ont vécu avec le groupe, qui connaissent les principes, et ce qu'a proposé Lyon, c'est très très cohérent. Et c'est vrai qu'ils ont eu aussi des occasions.
En face, t'as l'impression qu'ils balancent les joueurs sur le terrain.
De toute façon, depuis 15 ans, le football turc, c'est ça. Hein, tu balances les joueurs sur le terrain et advienne que pourra.
Et puis comme t'as toujours des gars un petit peu des ex talentueux ou des mecs qui ont quand même encore du ballon, bon, ça peut toujours donner un truc. Toi, le centre, la tête là de comment il s'appelle le grand devant.
Moriki,
mine de rien, ils en ont eu des occasions, tu vois, sur juste des phases de transition, des choses comme ça, et ça, ils peuvent le faire en match retour si tu te livres un petit peu trop. Mine de rien, attention, la gestion du match de l'OL et le retour, ça sera pas simple.
Alors, on va accueillir Aurélien au 32-16. Aurélien, tiens, tu es là, Aurélien ?
Je suis là.
Salut, Aurélien.
Salut.
Juste, petit point d'histoire. Vous savez qu'en général, les clubs français, dans ces barrages-là, ont foire.
La dernière fois c'était Lille contre Fenerbahçe, c'est passé en 2024.
Ouais, 2024, et la fois d'avant c'était Monaco, il y a 10 ans de ça, 2016, et il y avait déjà Fenerbahçe, ils avaient éliminé Fenerbahçe. Donc tu vois, en fait, Fenerbahçe c'est un peu le paillasson des clubs français. Donc espérons que ça se confirme la semaine prochaine. Bon, Aurélien, du coup, t'es confiant toi après le match aller là?
Oui, je suis confiant. Honnêtement, j'ai été, même si je savais que, enfin, tout le monde disait que c'était l'équipe de pré-retraités, etc. Donc, je me doutais que ça allait pas être non plus la Madrid, mais je m'attendais quand même un peu mieux de leur part. J'ai été un peu surpris de leur niveau. Je pense que Lyon a pas tout le temps pris conscience qu'ils étaient meilleurs.
On a essayé de comprendre pourquoi il a pas joué à la Coupe du Monde ou pas?
Oui, bah oui, oui. On sait qu'il s'est gratté des ballons, mais après, à part ça, il a pas de changement de rythme.
On a vu quand même qu'il est au bout, quoi.
Ouais, non, pareil, même Guendouzi.
Il n'avait pas joué une minute.
Guendouzi, il a eu son temps en équipe de France, mais honnêtement, je.
Bon, aujourd'hui, Guendouzi, c'est un des meilleurs joueurs.
C'est un des meilleurs de Fenerbahçe ce soir. Lui, au milieu, il cavale, en tout
oui,
cas.
Oui, il a joué son rôle, mais niveau équipe de France, on a eu le débat à un moment donné.
Ah oui, tu faisais une référence par rapport à. Oui,
voilà.
Je
suis pas surpris qu'il soit pas là. Maintenant, comme je disais, je pense que Lyon a pas totalement pris conscience qu'ils étaient meilleurs sur le match. Ils ont été un peu en trop en gestion à certains moments.
Je suis d'accord avec toi.
Et pour moi, la fin de match, ils ont géré en se disant on a fait un point, enfin on a fait un match nul, c'est bien. Je pense qu'ils ont eu aussi un petit peu dans la tête le match de Ligue 1 qui arrive, ce qui ne veut pas non plus se louper sur le début de championnat.
Ça reste quand même un match important. Ce genre de pensée et tout là-haut, tu dois passer en Ligue
2. Mais c'est possible. C'est possible, même si c'est avec des champions, il faut qu'ils y pensent quand même. Ils vont jouer tous les 3 jours assez rapidement.
Ce soir, tu peux pas penser au match de championnat. Là, même si tu perds ce week-end, c'est pas très grave. Il faut se qualifier la semaine prochaine.
Ouais, mais pour autant, Fonseca n'a pas non plus tout donné sur les changements pour essayer de gagner le match.
Non, moi, je pense surtout que Fonseca avait peur d'un exploit individuel.
Lyon, ils ont Toulouse, Le Havre aussi en début de championnat. C'est pas non plus.
Moi, je pense que Paulo Fonseca, il a surtout eu peur de perdre ce match alors qu'il était très bien dans la rencontre.
Oui,
donc, il s'est dit, je vais pas faire des dingueries. On n'a pas réussi à faire la différence. On est bien dans le match. Je pense qu'au retour avec 50 000 Lyonnais. Je pense qu'au retour avec 50 000 Lyonnais, on aura quand même un supplément d'âme et donc ça va le faire.
Drague, donc
Pour moi, le gros point fort des Lyonnais ce soir, ça a été la discipline. Ça fait longtemps que j'ai pas vu d'une équipe lyonnaise aussi sérieuse et appliquée. Même sur le match retour du Sparta Prague, ils ont tout donné, il fallait qu'ils gagnent, c'était encore autre chose. Mais là, ils ont été vraiment appliqués de A à Z, à part quelques erreurs techniques, notamment Kluivert, mais bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ils ont été vraiment sérieux jusqu'au bout. Et ça, je pense que c'est, enfin, Fonseca y est pour beaucoup. Mais ils ont pas répété le match aller de Sparta Prague, et ça, c'est le gros point. Enfin, on avait surtout peur de ça. Et là, là, on est satisfait, honnêtement, on est satisfait.
Oh bah là si tu faisais le match aller de Prague, là ça aurait été très compliqué. Non.
La composition lyonnaise, elle est quand même. Je vais pas dire plus simple, mais elle est plus claire quand même. Oui, là c'est très clair.
Elle est plus simple et elle est plus claire, Kevin. Ouais. Il faut le dire. Ouais. C'était alambiqué.
C'est ce qu'il
vient de dire, on en avait beaucoup parlé pendant que toi. Non. Il a commencé par dire elle est pas forcément plus simple, elle est plus claire. Moi je dis qu'elle est les deux. Je dis qu'elle est les deux et que on avait dit pendant que vous étiez pas là que Fonseca faisait un peu partie de ses coachs qui parfois aimaient bien la fantaisie pour montrer que c'est lui le coach, c'est lui qui maîtrise, c'est lui l'intello. Et ça fait partie des coachs à qui t'as envie de dire de temps en temps, je vais pas nous faire un petit truc tranquille, simple. T'as plus les joueurs que t'as parce que quand t'as Fofana, Openda, Nouama, bon, c'est vrai qu'ils étaient pas là la toute première fois. Mmh. Et qu'au milieu t'as Tesman, Tolisso et Morton, c'est bon, c'est facile à ranger l'équipe. Hein. C'est facile,
ouais, bah, hein. Là quand tu regardes l'équipe, moi au bout d'une demi-heure, je me dis ah ouais, Lyon ils sont bien dans le match. Puis après je regardais les noms quand même, je me dis ah ouais c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal.
Défensivement sur Abner.
On va faire une évaluation dans quelques minutes.
Abner, ça n'a jamais été un grand défenseur, c'est un contre-attaquant. C'est un mec qui est là pour contre-attaquer.
Il a vraiment souffert ce soir.
Ouais, non, mais c'est normal. Après, tu joues contre Greenwood. Bon, celui qui souffre pas, déjà Greenwood, il joue en marchant pour défendre, donc il est fait que attaquer. Mais non, quand tu te dis, bon, alors, bien sûr, il y en a qui vont partir malheureusement. Enfin, bien sûr. À cause du fair-play financier, à cause de l'oseille, etc. Hein. Mais si t'as cette équipe là et que derrière t'as les joueurs qui rentrent, qui sont pour l'instant blessés ou absents, quand même il y a de quoi faire. Hein.
Bon, Aurélien, tu sais quand même, bon, tu sais quand est-ce que Lyon a joué la Ligue des Champions pour la dernière fois?
2020, post-Covid.
Voilà le match
qu'on avait fait demi-finale.
Exactement. Entre temps, le club a failli mourir, quand même, faut le rappeler, hein, quand même. Maintenant, ça date un petit peu maintenant, mais enfin bon.
Enfin, ça date pas, c'était il y a un an.
Tu fais bien de parler de ça, parce qu'on en parlait au Standard. On a quand même une équipe en face qui est criblée de dettes et qui a une amende de 7 millions et qui joue la Ligue des Champions et qui recrute tout le monde.
Qui fait un match, ça c'est le grand mystère des clubs turcs. Alors ça,
Après, faudra appeler mon ami Youssouf Çalık, journaliste turc, spécialiste de Fenerbahçe, qui pourrait nous expliquer après, ça, parce que franchement, je comprends rien.
Mais après, ils sont tous comme ça.
Les salaires.
Trabzonspor, ils ont acheté ça là, quand même. C'est avec un salaire de folie. Donc,
ouais, si, c'est clair.
Voilà. Ouais, mais après, les salaires de folie, c'est que c'est 50% salaire et 50% les billets dans le sac de sport. Hein.
Écoute, ça, je sais pas, mais bon, on reparlera des Turcs tout à l'heure. On va faire une évaluation.
C'est sympa, c'est pas Jérôme qui nous avait raconté ça, qu'il y avait le sac de sport avec les billets dedans.
Ah oui, quand il jouait en Cara.
50% cash. C'est 50% cash. 50%
d'ailleurs, il racontait qu'il facture. Avec, tu prends ton sac d'argent liquide, tu dis, mais attends, qu'est-ce qu'il me dit qu'il n'y a pas un mec qui m'attend dehors, tu vois, pour me braquer. C'est vrai que c'est flippant quand même, non?
Ah, c'est clair que.
Il y a tellement de légendes sur le football turc, ouais. On ne sait pas trop ce qui est vrai ou pas. Au final, on rigole, mais on est peu informé.
Tiens, écoutez Openda qui a marqué son premier but avec Lyon ce soir.
Je trouve que c'est un bon résultat de venir faire un ici. Je pense qu'on aurait pu peut-être marquer un deuxième, mais on repart quand même avec un bon résultat. On a fait une belle prestation, on a montré qu'on était là, qu'on n'a pas eu peur. Maintenant, il y a le match retour à la maison et ce sera différent.
Voilà, Openda, le Lyonnais. Aurélien, un truc à rajouter?
Non, juste sur le sujet Fofana. En prenant un peu de recul, même si ce sera quand même une perte, si on vend 35 millions, je vais pas être non plus dévasté s'il s'en va. On va récupérer tout.
Si c'est le Fofana de ce soir et le Fofana que t'as quasiment oublié parce qu'il a pas joué, il a pas joué toute la saison dernière. Donc forcément, si tu te dis tu récupères 35 millions, bon. Ok.
Je signe tout de suite. Okay. Après, peut-être oui.
Finalement, il aurait fallu garder le petit jeune qui est parti en Allemagne là, qu'on adorait l'année dernière.
Ah oui.
Morera. Pas Carvalho.
Morera.
Oui, Morera. Voilà, j'allais dire Carvalho.
Ouais, Morera. Après,
il aurait fallu garder lui et vendre.
Morera, ils l'ont vendu combien? Fana.
Entre 33 avec bonus.
Ah, 33. Le mec, il venait de D2 portugais, je crois.
Bah ouais.
Ah, la France vend bien.
On pourrait vendre mieux,
les Morera se vendent bien parce que t'as vu qu'à Strasbourg c'est quand même plus de 50 millions, le mec.
C'est incroyable, moi je suis désolé, mais c'est une arnaque. Aussi, 50 millions, c'est beaucoup quand même.
C'est plus des bonus.
Non, c'est incroyable.
Kevin, t'as pas compris que les sommes de transfert, ça voulait plus rien dire. T'en es encore à dire cette arnaque ou pas d'arnaque.
Parce qu'on parle de ça,
je te fais une liste sur les 10 dernières années, des sommes hallucinantes. T'en as plein.
Bonjour, désolé, Daniel. Je ne me contenterai pas de cette analyse.
Mais comment ça, tu ne contenteras pas de cette analyse?
Moi, je trouve que c'est toujours n'importe quoi, en fait.
On en reparle tout à l'heure au moment du mercato, parce que moi, je veux quand même que vous me donniez votre avis sur N6O vendu 35 millions, quand même.
Après, j'ai envie de te dire 35 millions, aujourd'hui, c'est bon marché. Donc,
c'est fou. Il vaut même pas 3.
Non, abuse pas.
Bon, on en reparle.
Kevin, là, t'as ta réponse. C'est que d'un côté, t'as Gilbert qui raconte n'importe quoi en disant que tu vois une poignée de figues. Et toi, tu dis que 35, c'est beaucoup trop cher.
3 millions, c'est aujourd'hui.
Arrête, mais tu le fais passer pour un joueur de quartier. Il est bon quand même, N6O. Arrête.
À quelle heure? Il lève pas la tête, il vous régale.
À quelle heure? Quand le match démarre à 20h45, il est bon à 20h45.
À aucune heure.
Bon, arrête, tu peux pas dire ça. Mais là, en fait, t'es braquage. Là, c'est le supporter qui parle.
Tu peux pas. Il y a quand même de la valeur.
Bon, Aurélien, merci en tout cas. Et on est comme toi.
On a l'impression que ça faisait 2 mois que t'étais pas là.
Moi, non,
Gilbert, ça fait 2 mois qu'il n'est pas là.
Non, je suis parti.
Si, c'est vrai, ça fait 2 mois, Gilbert. Après la Coupe du Monde. La fin de la Coupe du Monde, c'est quand? C'est pas il y a 2 mois, la fin de la Coupe du Monde?
Ma dernière émission, c'était le 22 juillet.
L'année dernière, je crois que tu n'as pas eu de vacances.
La finale, c'était il y a un mois pile.
L'an dernier, Aurélien, je crois que j'ai eu plus de vacances, figure-toi.
Ouais. En fait, donc les gens analysent les vacances de Gilbert maintenant.
Ça fait partie des.
Aurélien, il écoute l'after tous les jours, donc il veut savoir qui est là, qui n'est pas là, c'est normal.
On mesure aussi le retour de la Ligue 1 en fonction de Gilbert aussi, ça va avec.
Ouais, mais là, du coup, Daniel, il est en vacances ou il travaille là?
Daniel, c'est un escroc, il vient juste que tu as des matchs, après il repart.
Non, pas du tout.
Je serai au Vélodrome parce qu'il faut être sur le terrain de temps en temps. Et à Monaco OM. Je ne vais rien rater de l'OM, de ce nouvel OM en ce début de saison.
Ah, c'est ton club. Hein.
Ouais. Et c'est comment le club à côté de chez toi, là, avec le président Seedorf, c'est comment alors?
Non, c'est pas le sujet du soir. Là. Yanem Villa sera annoncé demain, il va signer demain.
Ah ouais? Sérieux?
Yanem Villa, signe. Oui, bien sûr.
Ah ouais, c'est bon ça.
Yann Mbila,
pour ceux qui n'ont pas tout suivi, c'est le club de San Remo.
Ouais.
Personne ne sait dans quel état il est physiquement, mais il paraît que
tu
ça va.
Tu pourrais pas
encore,
me faire signer là-bas.
Il était à Caen, Mbila, c'est ça?
Ouais, il était à Caen.
Toi?
Ouais.
Mais toi, tu joues plus. Tu veux faire quoi?
Bah non, mais je peux faire un tendon. S'il y a de l'argent, je peux faire un truc. Hein.
Un tendon.
Directeur sportif, tout manager.
Non, mais toi, moi.
Mais c'est attends, main,
ça, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, là, je suis un joueur de Saint-Maur. J'entends Kevin Diaz qui dit ça. J'ai mis des fous ou quoi, lui?
Mais, non, mais, je plaisante.
Mais c'est déjà fourni. Attends, t'as un staff de fous déjà là. Attends, tu crois que c'est une équipe.
Bon, arrête, vous êtes en cinquième div.
Dans un instant.
4.
Dans un instant.
Objectif de monter avec des vedettes qui arrivent.
Dans un instant, Eddy, supporter de Lyon pour l'évaluation lyonnaise. Et puis,
Eddy Vuibert.
Peut-être. Et puis Hussein sera avec nous un peu plus tard pour nous raconter comment.
Il s'est manifesté, Hussein.
Comment Fenerbahçe fonctionne, parce que c'est vrai qu'il y a quelques trucs qu'on ne comprend pas. Dans un instant, nous sommes de retour. L'after est là jusqu'à minuit, évidemment. Il est 23h15. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h16, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, Lyon a fait un partout. Donc en Turquie, face à Fenerbahçe ce soir, évaluation lyonnaise. Tout de suite, Eddy nous rejoint. Salut Eddy.
Salut, bonsoir à tous les gars.
Ça va?
Très heureux de vous avoir.
Bah pareil.
Le retour.
Le retour de qui?
Bah de Daniel, de Kevin.
Ah ouais.
Bah, on t'a entendu quelques matchs, mais effectivement, c'est quand il y a des matchs, quoi. Sinon.
Ouais, bah ouais, c'est parce que je disais.
Ah bah, mais non, tu sais, il faut, après la Coupe du Monde, il a fallu quand même se reposer. Hein.
Ouais,
deux semaines de vacances, c'est pas le bout du monde non plus. Hein.
Non, parce que pendant la Coupe du Monde, Daniel, il nous a dit à partir du 10 juillet, ça y est, la Coupe a commencé. Tu vois, alors qu'elle était là depuis un mois. Il y avait 10 matchs par jour. Et là, maintenant, il y a un match qui traîne en août, ils veulent faire absolument, tu vois.
Ouais. Oh là 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 là. Bah oui, parce que ceux-là. Eh ben, excuse-moi, mais ceux-là sont plus intéressants que.
Et puis après, il va se taper.
À peu près 20% des matchs qu'il y avait dans la Coupe du Monde. 20% des matchs de la Coupe du Monde étaient moins intéressants que le match de ce
Daniel,
soir.
Arrête, Daniel.
Non, mais toi, Kevin, toi, t'étais aux États-Unis. Toi, quand t'es là-bas, même un match de quartier, ça devient un match de Ligue des Champions pour toi.
J'ai vu un match.
Toi, t'as perdu la tête quand t'es arrivé là-bas. Donc
j'ai
on
vu un match contre Hoboken et Wihoken. C'était un gros niveau.
Non, mais l'autre, il est arrivé à l'aéroport. Il a complètement vrillé avec l'Air US. Donc, il a perdu pied.
Il s'est bien remis là.
Ouais.
Bonjour, il est en face de moi.
Il s'est remis un petit peu.
Ouais,
bien bronzé en plus.
Ouais, il est pas mal, il est au top.
Bon. T'es parti où, Kevin?
Hein, moi, je suis parti pas très loin, en Bretagne et au Portugal. Voilà.
Ah, t'es retourné au bled?
Ouais, écoute.
Bon, évaluation. Eddy, Lyon a trouvé un 9?
Ah, enfin? Oui, vraiment. Un neuf qui sait prendre la profondeur, dos au jeu, c'est pas trop mal, techniquement c'est très fort aussi, je trouve Openda. Et au vu de l'engagement qu'il met là en début de saison, j'espère que ça va durer et qu'il n'y aura pas de blessures aussi non plus. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ouais.
Bah oui, c'est vrai que franchement, c'est peut-être la trouvaille qui peut faire la diff, quoi. Ouais, bon,
non, c'est pas la trouvaille, c'est la, vous, enfin, parce qu'on le connaissait, mais si tu veux dire la bonne idée,
oui.
En fait, il illustre parfaitement le concept du contexte. C'est un gars, effectivement, si tu suis l'année dernière, ici en Italie, tout le monde te dit c'est qui Openda, quoi. Mais il était dans un contexte où on l'a pas fait jouer, parce que t'avais des mecs à statut qui étaient devant lui, qui étaient pas forcément meilleurs d'ailleurs, mais qu'on fait jouer, tu vois. Et à être allé le chercher, je trouve que c'est une bonne idée, ouais, parce que là, les prestats qu'on lui voit faire, là, sur les deux matchs, en tout cas, Sparta et ce soir, c'est un très très bon niveau.
Mais
est-ce que
Openda n'a pas le statut aussi ou le profil de joueur qui doit être le numéro un dans un club et qui doit pas être dans une rotation où dès que tu fais un match et demi moyen, tu vas être remis en question, on va te mettre sur le banc.
C'est pas forcément qu'il était dans une rotation. Quand t'as des mecs qui ont coûté deux fois plus cher que lui, qui sont installés depuis des années dans un championnat, et que
il y avait pas que lui, il y avait Jonathan David.
Parce que la gestion de la Juve, mais Jonathan David, il a pas réussi.
Non, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui quand t'es dans un club où il y a trois avant-centres qui ont déjà fini meilleur buteur de leur championnat, par exemple. Peu importe si c'est Jonathan David, Openda ou autre.
T'as pas beaucoup de joueurs qui aime ce genre de situation, Kevin, c'est très difficile pour n'importe quel.
Ah oui, mais c'est comme ça dans les très grands clubs, on est d'accord. Donc,
mais pas forcément. Regarde, très grand club, prenons le plus grand club au monde actuel qui est le PSG. Devant, est-ce que tu as l'impression qu'au poste de 9 ou sur les côtés, tu as 3 joueurs? Non, tu en as 2. Et t'as des mecs qui peuvent varier.
C'est normal, là, c'est les meilleurs joueurs du monde dans le meilleur club du monde. Mais Openda, c'est pas le meilleur joueur du monde.
Dans les plus grands clubs. Moi, je pense que justement, dans les grands clubs, récemment, on a eu trop tendance à accumuler les joueurs. Regarde, prenons l'exemple même de Liverpool quand ils ont fait, c'était l'été dernier, quand ils ont cassé la baraque avec.
Oui, non, mais ça, c'était une hérésie.
Ah, ok. Donc à chaque fois que je te donne un exemple, tu me dis que c'est une erreur. Ben oui, c'est ce que justement je suis en train de te dire, que c'est une erreur. Et que tu me dis les plus grands clubs. Ben, je t'ai dit Liverpool l'année dernière quand ils font 250 millions sur deux attaquants, ou même quand le PSG, avant de tout faire bien, quand ils enquillent Kolo Muani et Gonzalo Ramos 85-90, ben pour moi ça c'est pas de la bonne gestion. C'est pas de la bonne gestion. Donc oui, quand la Juve, ils ont qui? Les mecs blessés qui font un match sur 10, là, les Vlahovic, machin, Jonathan David, ils le prennent, Openda, ouais, bah, à l'arrivée, tu te retrouves avec aucun mec qui a, et la confiance du coach, et qui arrive à
s'installer. Mais j'entends ce que tu dis, mais il y a aussi des joueurs qui sont faits pour être des gros joueurs dans un club comme Lyon ou comme Marseille, et qui, s'ils vont au PSG type Ramos, par exemple. Ramos, bah, il est très fort à Benfica, je pense qu'il peut être très fort au Milan, mais au PSG, dans une rotation à jouer 10 minutes par jeu.
Mais c'est pas rotation, c'est
non, mais il y a aussi le fait que les joueurs sont toujours plus à l'aise quand ils jouent les matchs et qu'ils ont la confiance du coach et de tout le monde.
Bien sûr.
Plutôt que quand tu as 3 mecs
de 3 4 attaquants.
Voilà.
Il faut pas qu'il y ait une concurrence à 3 ou 4 mecs.
Revenons à Lyon, je vais vous divaguer.
C'est une gestion ça.
Openda, on parle d'Openda.
Non, mais Openda, d'ailleurs, il avait démarré titulaire à la Juve avant de se faire sortir. Donc sur le début de saison, il était titulaire.
Après, il y a le profil d'équipe. Je regardais pas les matchs de la Juve pour être honnête, mais est-ce que c'était face à des blocs bas, est-ce que c'était face à des blocs hauts? Parce que là, Openda, dans un match comme celui-ci, là, il se régale. Il a des espaces, il peut courir, il peut aller boxer avec les défenseurs. C'est là où il est le meilleur. Et puis en plus en face, il a Skriniar. Donc forcément, Skriniar avec 40 mètres dans son dos, c'est pas ce qu'il préfère. Mais Openda, si tu le mets dans une équipe comme le PSG où il y a que 15 mètres de profondeur dans le dos de la défense, ce sera peut-être plus difficile pour lui.
Il y a un autre joueur dont tu veux parler, Eddy, qui t'a plu ou pas plu d'ailleurs?
Bah, Tolisso, comme d'habitude, surtout sur la première mi-temps.
Tolisso, c'est le king, c'est le patron.
C'est incroyable ce qu'il fait. Numéro 10, numéro 8, il s'est joué partout.
Là, il faut que Zizou le prenne en équipe de France.
Bah, il aura intérêt.
Là, il faut que Zizou le prenne en équipe de France.
On relance ça.
Ah mais si, bah pourquoi pas.
Il y a plein de choses que tu vas de.
Bah là, de toute façon, tout est reparti à zéro là avec l'équipe de France.
Voilà. Un milieu de terrain, Rabiot, Tolisso, t'es au top.
Ah bah tiens, Tolisso, écoutez-le.
Rabiot, l'histoire va continuer, mais t'es au courant de ce qui se passe à Milan quand même là.
Ah oui, c'est chaud. Il veut une augmente.
Non, mais votre joueur phare là, dont aucune équipe peut se passer, comme par hasard évidemment à Milan, ils ont même pas fait Ligue des Champions là. Maintenant, il est dans le loft.
Ah, peut-être que Marseille sur le coup.
Ah, mais c'est votre vedette, ça, c'est votre vedette. Eh, écoute.
Pourquoi il y a un joueur dont je veux parler à Lyon.
Alors attends, on va d'abord écouter Tolisso, parce qu'on en parlait là. Parce que c'était sur Canal il y a quelques instants.
Lui, Rabiot, il le mange matin, midi et soir.
Il a des regrets sur le match, Tolisso, on écoute.
Comme je vous ai dit, j'aurais aimé qu'on garde ce 1-0 peut-être un peu plus longtemps en deuxième mi-temps, de revenir. En deuxième mi-temps et de prendre un but au bout d'une minute, une minute trente, je crois. C'est dommage. Après voilà, on a fait un match solide, je pense un match complet. On a bien défendu, on s'est créé quelques situations et voilà, c'était un bon match. Surtout, on savait que ça a été compliqué dans ce stade avec leurs supporters, l'atmosphère, etc. Mais franchement, je suis fier des gars. On a répondu présent, on était présent dans les duels. Voilà, il reste un match retour chez nous à domicile avec notre public et voilà, j'espère qu'on va faire le taf et qu'on arrivera à se qualifier la semaine prochaine.
Voilà pour Corentin Tolisso, les gars. Oui, tu veux parler de qui?
Moi, je voulais parler de Tesman. Je trouve les gens très durs avec Tesman, mais encore une fois, ce soir, je le trouve bon. Il fait beaucoup
moi
de compensations.
Je suis d'accord avec toi. Il
fait beaucoup de compensations. J'ai vu un Kluivert en grande difficulté des fois, mais Tesman, c'est lui qui revient, qui donne un coup de main, qui revient des fois.
Il est sur le but aussi.
Il est sur le but aussi, le but de Lyon, tu veux dire? Mm-hmm. Ouais. Il est sur le but aussi. Non, franchement, moi je trouve que les gens sont très durs avec Tesman, qui peut jouer central, qui peut jouer 6. Alors c'est peut-être pas
parce qu'il a un style un peu rustre.
Ouais, mais il est grand, il est bon,
mais
de la tête.
Je trouve pas qu'il est. Enfin, il a sa place à l'OL, quoi. Sans problème. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Les gens souvent lui tapent trop dessus, quoi.
Ça, c'est un mec qui va signer en Allemagne ou il va signer en Allemagne ou en première ligue. On va se rendre compte que c'est un très très bon joueur.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Kevin.
Eddy, d'accord aussi?
Ouais, je suis d'accord. Et si je peux rajouter un truc sur Fonseca?
Ouais.
Moi, c'est plutôt ça que je voulais parler aussi. Enfin, je suis vraiment pas fan du coaching de Fonseca. J'aime pas trop les calculs, les stratégies en cours de match. J'ai l'impression qu'au un partout, bah, pour lui, le match nul, c'était comme une victoire, quoi. Et j'espère qu'on sera pas punir au retour, mais quand on voit les changements qu'il fait, enfin, il a rien tenté, quoi. Il fait du poste pour poste, il préfère partir
après,
Boston.
Après la vérité, il a il faut être juste. S'il fait le contraire, s'il prend des risques pour aller le gagner et qu'il se prend un but en compte, tout le monde le découpe. tout le monde
non,
lui dit
mais qu'est-ce que t'as allé faire.
Moi je pense que les gens auraient été extrêmement sévères et certainement nous aussi s'il avait tenté ce genre de choses là.
Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des calculs, tout ça, on n'est jamais récompensé derrière. Et ça arrivait plusieurs fois à Fonseca, surtout en match de coupe ou à l'élimination directe. J'ai pas été fan. J'aurais bien aimé voir un petit Rémi Humbert qui mette le feu devant, surtout au vu de la défense du Fener. Voilà, j'espère qu'on n'aura pas de regrets, mais normalement, ça devrait le faire à la maison de retour.
Très bien, bah, écoute, on le souhaite en tout cas. Salut Eli.
Bonne soirée.
Salut. Merci
beaucoup. Bonne soirée. Dans les joueurs lyonnais, j'aimerais juste dire un mot de Kluivert, moi. Parce que Kluivert, c'était quand même le type qui était en perdition quand il est arrivé. Et puis, il y a une espèce de transformation qui s'est faite.
Pendant la CAN.
Et là, il est possible que finalement, ce soit un titulaire indiscutable sur toute la saison. Bon. Donc, voilà, et je souligne ça. Et toi, tu trouves qu'on est souvent dur avec Tesman. Est-ce qu'on n'est pas aussi beaucoup dur souvent avec Maitland-Niles?
Non, mais après, Maitland-Niles.
C'est pas qu'on est souvent dur, c'est que les mecs, ils sont pas tout le temps bons. Donc, quand ils sont pas bons, on le souligne. Kluivert, il lui arrivait de faire des matchs.
Oui, oui, ce que je te dis au début.
Il faisait peur. Et d'autres, où effectivement, il était assez étonnant. Et pareil,
depuis 6 mois, il est bon.
T'as toujours moi, Maitland-Niles, j'ai l'impression que c'est un mec qui est en transit à Lyon. Pourtant, ça commence à faire maintenant qu'il est là. J'ai l'impression que c'est un peu l'invité. Tu sais, monsieur, qu'est-ce que vous faites là?
C'est vrai que tu sais jamais trop à quoi t'attendre avec lui, mais je trouve qu'il est plus souvent bon pour eux, en fait.
Il est venu sur un malentendu. On a l'impression qu'il doit toujours repartir. D'ailleurs, il est annoncé partant avant la fin du mercato. Et puis, il est là. Et puis, il y a des matchs où tu te dis, ah putain, Maitland-Niles, tu te souviens quand il était jeune. Et puis d'autres, tu te dis, ah putain, on a oublié quand il était jeune.
Ouais. Non mais Maitland-Niles, on l'a vu débuter à l'époque sur RMC Sport quand on avait les droits de la première ligue. On commentait tous ces matchs le week-end. C'était censé être un crack à la base. Il jouait arrière droit, il pouvait jouer milieu de terrain. Mais aujourd'hui, c'est un joueur moyen de Lyon. C'est pas un mec qui a fait la carrière qu'il aurait pu en tout cas. Je le connais pas au quotidien, je connais pas son éthique de travail, mais c'est plutôt un what if que autre chose.
Un quoi?
Un what if.
Ah, parce que là, il a pris l'action du New Jersey, là.
Voilà, sorry.
N'importe quoi.
What if, tu voulais dire?
What if. C'est une expression.
Ah, ok.
Voilà. Bon.
Avec
l'accent,
comment tu voulais que... Pour tous les gens qui parlent anglais, elle est très connue, hein, Daniel.
C'est plus l'accent du 9-4.
Oui, pour les gens qui parlent anglais, pas pour les mecs qui essayent de parler anglais comme toi. Oui, forcément, c'est pour ça qu'on comprenait rien.
D'accord.
Un what if.
Bon, quant à Fofana, on ne sait pas s'il sera le retour, en fait.
J'espère que là, il faut qu'il soit le retour.
S'il signe
ça va
à la
dépendre
Roma.
De l'accord avec,
non, mais
avec
la Roma, ils vont attendre.
La Roma, pourquoi il ferait le cadeau? Et pourquoi il ferait le cadeau? Il dit oh, bah oui, tiens, termine, fais ton match de Ligue des Champions, et puis tiens, pourquoi pas, va te blesser aussi.
Toi,
si t'es à la Roma, Kevin, toi qui es dirigeant de club, si justement il doit venir chez toi, qu'est-ce que t'en as à cirer que Lyon, un mec de Ligue des Champions,
Mais là, je te parle pas de la Roma, moi, je te parle de Lyon.
Alors, Fonseca, petite info, a dit sur Canal là que normalement il devrait être là au retour. Alors, peut-être qu'il s'avance un peu, je sais pas.
Non, mais après, c'est quand même Lyon qui a encore la main. C'est Lyon qui prend le risque, c'est pas la Roma, j'ai envie de te dire.
Non, Lyon a pas la main si la Roma arrive avec 35 millions ou 30 millions, ils ont pas la main.
C'est Lyon qui prend le risque, Daniel.
Pourquoi?
La Roma,
si le transfert
ne se fait pas, la Roma, ils prendront un autre joueur. Par contre, Lyon, ils seront vraiment dans les problèmes. Donc Lyon prend au moins autant de risques, voire plus de risques que la Roma.
C'est ce que tu veux dire.
Donc après, c'est pour ça que je te dis que c'est à Lyon de voir. C'est quand même Lyon qui décide encore s'ils vendent leurs joueurs ou pas.
Sauf que moi, si je suis la Roma, je dis, moi, je vous les donne, les 35, mais il arrive demain. Et il joue pas le match. Retour.
Écoute, Lyon peut te dire, écoutez.
Et si je suis Lyon et que j'ai vraiment besoin de vendre, je dis, écoute, mon grand, prends l'avion demain, parce que les 35 millions, sinon, ils nous passent sous le nez. Tu vois,
mais si tu te qualifies en Ligue des Champions, t'as 20 millions de plus.
Et alors,
donc tu peux dire à la Roma, écoutez, si on se qualifie en Ligue des Champions, on vous le fait pas à 35, on vous le fait à 30, mais nous on aura pris 20 de plus. Voilà.
Je pense pas que ce soit les calculs de Lyon à l'heure actuelle, ce genre de choses.
Peut-être pas, mais...
Non, je suis pas sûr que ce soit ça.
Mais bon, voilà pour l'évaluation. Dans un instant, vous saurez tout de Fenerbahçe et de la construction de ce club, parce que Hussein est là. On se retrouve donc dans quelques secondes. Fenerbahçe au programme, le Mercato, l'actu de la FIFA, de la Fédération Française de Foot d'ici minuit, l'after jusqu'à minuit. Donc, il nous reste une demi-heure ensemble, à tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h31, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, l'after jusqu'à minuit évidemment, après donc le 1 partout de Lyon. En Turquie face à Fenerbahçe. Fenerbahçe justement, club un peu mystère, vu de chez nous, quand on voit l'alignement de joueurs en effet. Et puis les résultats qui ne suivent pas, ils n'ont pas été en phase de poule de Ligue des Champions Fenerbahçe depuis 2009. C'est un truc de fou quand même.
Et ils n'ont pas été champions depuis 2014.
Ouais.
Mais quand ils étaient champions en 2014, ils n'ont pas été qualifiés.
Bah, ils avaient dû faire un tour préliminaire. Tu sais, les
non, ils ont fait le barrage. Ils ont fait le barrage.
Ah, il n'y avait pas une histoire d'exclusion aussi, peut-être. Attends, Hussein va nous dire. Il est là, Hussein. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Salut Hussein.
Bon, merci.
Salut Hussein, ça va?
Ah, oui, ça va et toi?
Très bien.
Du coup, concernant 2014, ouais, on avait été exclus à cause des affaires de Max Truquet de 2011. On avait été exclus 2 ans, il me semble, et justement, quand on était champion en 2014, on n'avait pas pu participer à la Ligue des Champions à cause de ça. C'était Trabzonspor qui nous avait remplacé. D'ailleurs, je crois que Trabzonspor avait joué contre Lille, il me semble. Ouais, il me semble qu'il était dans le même groupe que Lille. Ouais. Du coup, concernant Fener, encore une grosse déception pour nous. Mm-hmm. Et je suis plus surpris, quoi, avec le temps. On a beau dépenser beaucoup d'argent, changer d'entraîneur, changer même de président, et on a l'impression que c'est toujours la même chose. Ça bloque dès qu'on rencontre une équipe qui a à peu près notre niveau. Surtout que là, c'est pas le Lyon que j'ai connu quand Fenerbahçe justement dans les années 2000, hein, où il y avait des grands joueurs. D'ailleurs, on avait pris un but par Pierre-Alain Fro, il me semble. En phase de groupe, on avait perdu 4 fois contre Lyon, mais c'était vraiment une très bonne équipe. Là, je pense qu'ils étaient prenables. Et là, j'ai quasiment plus d'espoir pour.
Hussein, moi, une question que je vais te poser. Toi, tu es d'origine turque, tu vis en France, t'es français, d'origine turque et tout. Donc, tu as une approche footballistique à double face, en fait. Donc, tu peux avoir des réflexions quand tu regardes ton équipe de cœur depuis toujours et tout, mais tu la regardes finalement avec une double culture et une double approche footballistique. Mais quand tu vas en Turquie ou quand tu parles avec des gens de ta famille ou des gens qui n'ont qu'une face de culture, c'est-à-dire là-bas, est-ce qu'ils voient le football comme toi? Ou est-ce que toi, tu arrives à comprendre comment eux, ils fonctionnent dans leur idée? Est-ce qu'ils croient réellement que ces mecs-là sont encore des très bons joueurs? Comment ça se passe, tu vois? Parce que dans tous les pays, moi, je pense toujours que chaque pays a un peu sa vision du foot. Tu vas au Portugal, en Italie, un peu partout, on a des regards un peu différents sur le foot. Toi, quand tu parles à ta famille là-bas et tout, ils pensent que c'est des bons joueurs, les mecs qui sont dans l'équipe là.
En fait,
que c'est une bonne politique sportive, que c'est une bonne politique sportive de faire comme ils font. Comment, c'est quoi les débats que vous avez entre vous?
En fait, quand tu regardes là, l'équipe, ils sont pas si âgés que ça, hormis Lukaku, bien sûr, qui a quasiment pas joué, il me semble, avec Naples l'année dernière, mais t'as des gars quand même comme Asensio, Skriniar était très bon l'année dernière, Guendouzi est pas très vieux.
Ah, Grinou, il fait une bonne saison l'année dernière, quand même.
Mais Skriniar, c'est quand même un type qui est vraiment, vraiment sur la fin.
Hacké, franchement.
Skriniar, il a 32 ou 33 ans, il me semble. L'année dernière, il était très bon. Il a subi une grosse blessure. Et ça, c'est vrai que je le trouve moins bon. Mais il y a Natana qui
Mais là, au milieu de terrain, vous avez Kanté, tu vois bien qu'il est fini. Vous prenez Greenwood, qui est un mec hyper dur à gérer. On sait très bien tous les problèmes qu'il a eu partout. Enfin, chaque mec dans l'équipe, tu vois bien que ça va pas être simple de monter un collectif.
Pardon,
quand même.
Hacké, c'est quand même un contre-exemple. Il a 31 ans, et tu vas me dire, il a dépassé la trentaine. Enfin bon.
C'est que des mecs qui ont leur carrière derrière eux. Même Ederson, le gardien, tu vois, c'est bon. Ces mecs, ils ont tout donné, quoi. Le carburant, le moteur, c'est fini, quoi.
Théorie Max Chano, un joueur de foot désormais, passé 30 ans, c'est fini. Donc.
Après, Daniel, les supporters. Bon,
Laissez Hussein m'expliquer un peu, s'il vous plaît.
Non, là, je trouve que le recrutement est un peu meilleur. Après, c'est difficile, Daniel, de trouver des joueurs qui ont 25 ans, qui sont au top de leur forme. Ils coûtent 80-100 millions d'euros et c'est difficile de les faire venir en Turquie quant à la Première Ligue ou d'autres championnats qui sont plus attractifs pour eux. Mais on essaie aussi des jeunes. Par exemple, Siliki Sherif, d'ailleurs, il va partir à Coventry, sans doute. Mais je sais pas, c'est les mauvais choix. Il y a des mauvais choix où il n'y a pas assez de patience, peut-être. Comme tu disais, Siliki Sherif, il a pas fait l'affaire, quoi. C'était, comme tu disais, diffusé avant.
Tu veux dire que la Turquie, quelque part, est un peu condamnée à mettre de l'argent sur des vieilles gloires parce que ceux en dessous. Et vous, il n'y a pas des joueurs qui sont formés, des jeunes Turcs, il y en a, ou dès qu'ils sont bons, ils s'en vont?
Non, je pense qu'il y a un gros problème là-dessus, parce que déjà, la plupart des joueurs, enfin, pas la plupart, mais la moitié des joueurs de l'équipe nationale proviennent de la formation étrangère, donc en Allemagne surtout. Et je pense qu'avec 90 millions d'habitants, il n'y a vraiment pas assez de joueurs qui sont formés. Il doit y avoir un problème dans la formation aussi, parce que c'est à peu près le même nombre d'habitants qu'en Argentine, et quand tu vois la différence...
Là, déjà, là, c'est une explication qui m'intéresse plus et qui fait que je comprends pourquoi tu es obligé d'aller prendre ce genre de mec-là, parce qu'après, la culture foot est tellement forte, importante, et les clubs, mine de rien, ont de l'argent. Donc, ils le dépensent sur ces vieilles gloires, quoi. Ils construisent des équipes un peu comme ça. Okay.
Oui, surtout, ouais, des joueurs. Bon, là, ils ont pris Beşiktaş, a pris Vlahovic. Ouais, c'est vrai que c'est des joueurs qui ne faisaient plus l'affaire dans les grands championnats. Voilà. Vlahovic.
Vlahovic, là, c'est quelque chose, là. Bon.
Oui, vous n'arrêtez pas de critiquer Léao et Fenerbahçe et Galatasaray qui le voulaient, par exemple.
Vlahovic, je crois qu'il y a des bonnes boîtes de nuit à Istanbul, parce que là, avec Vlahovic, il va falloir fournir.
Mais donc l'endettement permanent et tout, là, ça ne pose pas de problème, quoi. Ça passe. On achète ça là en Turquie, on donne des salaires de maboule pour avoir zéro résultat européen, tout ça tranquillement. Ça fait pas forcément débat en Turquie.
Non, pas vraiment. On sait pas vraiment d'où vient l'argent. Bon, un petit peu quand même, parce que la Turquie, c'est un grand pays. Il y a beaucoup de grands sponsors comme Turkish Airlines.
C'est vrai. Il y a de l'argent quand même.
L'ancien président de Fenerbahçe était un des plus riches de Turquie. Il possédait entre autres la marque Beko, que vous connaissez peut-être.
Ah, l'électroménager.
Voilà, tout à fait. Et il paraît qu'il aurait donné 200 millions d'euros de sa poche, endetté le club à plus de 500 millions d'euros, et en 8 ans, il n'était pas arrivé à être champion.
Ah, moi, j'ai mis un peu de blé dedans, hein, parce que j'ai un four en Beko, donc.
Ah d'accord, t'as participé à quoi, au transfert de je sais pas qui. Donc là on est quand même à 700 millions dépensés pour zéro titre, quoi.
Oui, c'est la grosse déprime. Hein. Si on faisait le classement des supporters les plus tristes de la zone UEFA, je crois qu'on serait largement premier. C'est comme si le Real ou Bayern étaient champions dans leur pays. C'est le club historiquement le plus populaire de Turquie. Maintenant, Galatasaray nous a...
Et vous faites toujours deuxième. Vous avez fait quoi, 8 fois deuxième ou 9 fois deuxième depuis 2014? Il existe Poulidor en Turquie, non?
Ouais, d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose pour les équipes françaises de rencontrer Fenerbahçe, parce qu'en 2016-2017,
ouais, Monaco a créé
jusqu'en demi-finale, et il y a 2 ans, il est allé a fini dans le top.
T'es peut-être pas objectif, mais tu dis que pour toi, Fenerbahçe, il y a plus de supporters de Fenerbahçe que de Galatasaray?
Non, historiquement, mais les dernières années, ils nous auront clairement dépassé, hein, toute une génération. Toute une génération est passée pour Galatasaray. Là. Mais historiquement, dans les années 70-80, c'était 70% de Fenerbahçe et Galatasaray était peu connu.
Ah oui, d'accord.
Ouais, c'était un peu comme Saint-Etienne avant, mais là, si ça continue, on va perdre beaucoup de supporters, hein, c'est sûr.
Bon, et donc il y a un an, c'était Mourinho sur le banc.
Ouais, là, on a
On a tout essayé, des étrangers qui avaient une carrière, des étrangers jeunes comme Domenico Tedesco qui était en Belgique, il me semble. On a essayé des locaux, ça marche toujours pas.
Bon, Hussein, on va pas te casser plus le moral. Hein.
Vous n'êtes pas encore éliminé quand même.
Oh non, on n'est pas éliminé, mais je sens pas très bien, ouais, vu qu'on n'y est plus depuis 2009, mais... Peut-être qu'on créera la surprise avec une frappe lointaine de Greenwood.
Non, bah Greenwood, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il met quand même un but de fou. Hein.
Ouais, non, mais c'est un très bon
but. C'est sa spéciale. C'est le but qu'on a vu 1000 fois avec l'OM. Enfin, pas 1000 fois, mais qu'on a vu plein de fois avec l'OM. Ouais. Ça, il est capable de le faire. Après, le reste, tu sais que tu ne peux pas compter sur lui. Quoi. C'est toujours pareil.
Hussein, merci.
Et dans son coin.
Merci de ta fidélité, Hussein, qui est un lutteur fidèle de l'After depuis des années.
Absolument.
Dans un instant, on a tout dit sur ce match?
Ouais, je pense qu'on a tout
fait,
tout.
Très bien. Dans un instant, donc, on parle Mercato. On va revenir sur ces fameux prix de vente là de certains joueurs. L'actu du jour. Et puis ce qui se passe en coulisses à la Fédé. Que va décider la Fédé? Est-ce que la Fédé va voter Infantino, par exemple.
Quelle fédé?
La fédé française.
Ah, ça, non. Ouais, on en parle dans un instant.
On en parle dans un instant, exactement.
Pas mal de remous aussi dans le football amateur. Entre des clubs repêchés à dernière minute, Bordeaux, pas Bordeaux, Tours, pas Tours, ouais, c'est compliqué. Hein. Très, très compliqué.
Tous les ans, c'est comme ça, Kevin.
Ah non, mais là, cette année, c'est pire.
Tous les ans, il y a des trucs de dinguerie.
Non,
de...
Normalement, avant, il y avait la date du 15 juillet. Après le 15 juillet, c'était quasiment fini. Tu savais qu'après le 15 juillet, les calendriers étaient sortis. Maintenant, c'est CNOSF, Triminal,
Tral du Sport. C'est pour ça que j'allais te dire, la Fédé, les pauvres. Ils sont tributaires de la calendrier judiciaire qui, malheureusement, est souvent pas le calendrier sportif.
Oui, souvent, quand même, quand tu passais le 15 juillet, après, c'était fini. Quoi. Y avait peu de recours qui allaient au bout. Mais là.
Samuel, le producteur ce soir, qui est supporter bordelais, lui disait il y a deux ans, Bordeaux, ça s'est décidé le 17 août.
Oui, mais Bordeaux, c'était encore particulier. Mais normalement, en tout cas, dans les clubs. Ouais, mais le 17 août, c'était quoi? C'était pour la Ligue 2? Ou c'était parce qu'ils étaient encore en possibilité
pour le National 2.
C'était pour le National 2, il y a deux ans. Je me rappelle plus pour il y a deux ans, mais c'est vrai que là, ces dernières années,
ils avaient fait un recours pour être en National, et donc finalement, ça avait été décidé à National 2.
Ok, ouais, mais voilà, c'était différent. Mais là, en général, quand les calendriers étaient sortis, c'était très difficile d'être réintégré. Mais là, ça va dans tous les sens.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h43, l'after est là jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo bien sûr. Le mercato, jingle.
C'est combien?
30 000.
Elle est bien, j'ai envie de la prendre.
Attends, je vais te la marcher.
Tu l'as fait à combien là? J'ai dit 30 000.
T'as vaut 15 000 francs là?
Non, 30 000.
25 000?
Non, 30 000.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Et oui, ce soir, je vais démarrer le mercato par Le Mans. Et oui, parce que Le Mans joue en Ligue 1. Ça ne vous a pas échappé. Le Mans monte. Et Le Mans recrute. Le Mans a recruté Djibril Sidibé, champion du monde, quand même, rappelez-vous, en 2018, qui était libre, qui était à Toulouse il n'y a pas si longtemps, qui a signé au Mans. Ils ont également recruté un défenseur central, Raúl Torrente, un espagnol qui vient de Zagreb, qui a joué la Ligue des Champions avec Zagreb, un jeune qui a 24 ans. Donc Le Mans recrute. On va suivre. Également Le Mans. On était au Mans il y a quelques mois dans la tournée de tournée.
Bah, le club à suivre pour
tout
moi.
Est parti de là.
Tout est parti de là.
Hein.
Ouais, Le Mans, belle histoire. Hein. C'est le Strasbourg des temps modernes qui est remonté de nulle part en 5-6 ans.
C'est vrai qu'ils sont remontés de nulle part. En plus ils ont un beau stade.
Ils ont un très bon avant-centre nommé William Arrous que vous allez découvrir dans l'after.
Ah oui, ton ancien joueur là.
Et oui.
Il y a beaucoup de clubs dans notre football qui ont coulé pour remonter. Ça en dit long également sur la gestion de certains clubs. Mais je pense à ça parce que évidemment l'actualité est un peu focale autour de Bordeaux en ce moment, qui pourrait vivre la même chose, quoi, c'est-à-dire être liquidé et devoir repartir de zéro pour remonter. Ça arrive dans notre foot.
Exactement.
Après Le Mans, c'est pas la même histoire que Bordeaux ou que Strasbourg quand même.
À Toulouse, Metali devait aller à Sunderland, visite médicale, il a un problème au dos, donc il rentre à Toulouse, donc peut-être que le transfert se fera pas.
C'est fou ça.
Problème au dos, genre il a le dos cassé parce que.
Il est jeune, hein, il a 20 ans, donc je sais pas, il y a un problème au dos qui a été détecté.
Ils ont repéré chez lui que le dos il était mort.
Sa visite médicale en Angleterre, donc pour l'instant pas de transfert. On va dire que ça sera pas, mais en tout cas pour l'instant c'est revu. Ah oui, je voulais quand même. Alors ça c'est du mercato un peu, pas vraiment club Ligue 1, mais. Patrick Vieira était dans l'after il y a quelques semaines, pendant la Coupe du Monde.
Ouais, c'est au Sénégal.
Ben, rappelez-vous, quand même, parce qu'il avait dit un truc ce soir-là. Moi, tout à l'heure, quand on a appris l'info, j'ai percuté. Puis, attends, il avait quand même dit qu'il voulait un club, pas une sélection.
Ah non, moi, il m'avait dit que pourquoi pas une sélection.
Ah ouais, ben, en tout cas, écoute, il avait dit ça.
Par hasard, si Zinedine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, te passe un coup de fil pour venir dans le staff, tu y vas ou pas?
Parce qu'il est, il sera le sélectionneur.
Ah, je pense.
Oui, Patrick, fais pas le malin. Tout le monde le sait, c'est bon.
Ça peut être bien.
Non, mais je pense que Zidane a son équipe en tête. Moi, je suis plus à la recherche d'un club pour le travail au quotidien que d'une sélection. Là, j'ai vraiment décidé de prendre le temps de bien réfléchir et de bien étudier les choix que je peux avoir. J'ai pas envie de sauter sur le premier premier club.
Bon, du coup il a réfléchi, il prend une sélection quand même.
D'accord, mais qu'est-ce que le fait de réécouter ça, qu'est-ce que ça dit?
Ah, mais ça dit qu'il voulait un club plutôt qu'une sélection, il le dit.
D'accord, mais et si le club s'est pas présenté?
Attention, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, il y a pas de problème. Moi je pense
Mais moi je prends pas ça comme un changement d'avis, moi. D'abord, d'une, t'as le droit de changer d'avis, mais deux, je vois pas.
En plus, on lui proposait adjoint d'une sélection.
Mais ça se trouve, oui. Il n'y a pas de club, avec un projet intéressant qui s'est présenté à lui. T'as le Sénégal qui arrive, qui est le pays où il est né, et qui est quand même une belle sélection, où il y a un vrai bon travail à faire, où tu vas pas refuser, bien sûr que tu y vas.
Non, mais moi j'entends.
Ça me paraît tout à fait normal. C'est bien pour lui, bien pour le Sénégal. Moi j'ai envie de voir en tout cas.
Exactement. Les prix de vente des joueurs. Donc on a commencé un peu le débat tout à l'heure.
Un jour je veux faire venir un économiste. Parce que je l'ai dit pendant l'after de l'été.
Mais pourquoi est-ce que tu as besoin d'un économiste ou est-ce qu'on peut t'expliquer des choses?
Non, mais moi je suis pas économiste, il y a pas de souci.
David est dans l'after en ce moment, quasiment tous les jours.
David c'est un économiste.
Ouais, il n'est pas là aujourd'hui.
Il est pas économiste, il est banquier.
Voilà, il est banquier d'ailleurs. Mais moi quand on me dit ah oui mais en gros le prix c'est le prix du marché. C'est-à-dire que quelqu'un veut t'acheter 70 millions donc tu les vaux. Moi, je trouve que c'est faux, en fait. Je trouve que ça, c'est faux. Si demain, t'as une bagnole pourrie, mais parce qu'il t'a un mec dans le monde qui veut mettre 70 millions, ça ne veut pas dire que c'est son prix.
C'est ce que je t'ai dit sur Enciso. Enciso ne vaut pas 35 millions.
Non, mais 35, ok, mais toi, tu dis qu'il en vaut 3. Il y a juste milieu.
C'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, 35 millions, c'est super bien vendu, franchement.
Je vous dis que tout ce que vous racontez, et moi, tout ce que je vous rappelle depuis des années, que ce que vous dites n'a aucun sens.
Donc pour toi, le prix du marché, c'est le prix du mec.
Non, parce qu'en fait, de toute façon, c'est extrêmement dur à déterminer, puisque le foot, depuis des années, va te montrer qu'un joueur sur lequel tu auras mis des millions n'aura pas le rendu que tu espérais. D'autres que tu as payé pas cher vont faire des belles saisons et vont te faire faire des clubs buts sur le marché des transferts quelques années après. C'est très difficile. Et si tu veux mener une vraie réflexion sur ce sujet, je t'invite, je veux bien t'aider, on prend les 10 dernières années, les plus gros transferts, et on regarde ensemble quel a été le rendu.
Bah pour moi, quasiment tous les transferts à plus de 100 millions d'euros n'ont pas eu l'effet escompté. Je pense qu'on est à 80%.
Je pense, Kevin, que tu seras pas loin de la vérité, que je te suivrai dans cette réflexion-là, et que oui, ok, aujourd'hui, je trouve qu'il y a des chiffres qui sont démesurés et que, en fait, à une époque, quand tu mettais une grosse somme d'argent sur un joueur, tu avais vraiment le sentiment que le mec était un peu à part. Aujourd'hui, revenons à l'exemple de Liverpool l'été dernier, quand ils ont foutu plus de 100 millions sur Isaac. Ah ouais, vraiment ? Il est vraiment meilleur que, je sais pas, tu pouvais mettre 5 avant-centres sur le tapis, t'avais vraiment le sentiment qu'il valait ça.
Mais même Darwin Núñez à 80 millions.
Ou que Joe Kéres, ou que ce genre d'attaquant, t'as vraiment besoin. Bon, ok. Après, si l'oseille, ils l'ont, parce que c'est des clubs quand l'oseille encaisse.
Ouais, mais quand ils l'ont, ils font n'importe quoi avec.
Pas. Ouais, mais s'ils s'endettent pas, bon bah ok, ils ont dépensé l'argent.
De toute façon, c'est la fameuse phrase qui me revient de Michael Jordan, qui dit qu'à son époque, les joueurs, et il parle de salaire parce que là-bas il n'y a pas de transfert, mais il dit qu'à son époque, dans le basket, mais on peut le rapporter facilement au foot, donc à une certaine époque, les joueurs étaient payés pour leur talent, et aujourd'hui ils sont payés pour leur potentiel. Mais comment valoriser un potentiel, pour moi, c'est impossible.
Ça fait longtemps que c'est le cas dans le foot, ça. Mais
oui, ouais, mais c'est pas possible.
Souvent,
pour moi.
Tu payes en espérant, mais c'est comme les clubs français qui n'ont pas de thunes prennent des gars entre 0 et 5 millions en se disant qu'ils vont faire des culs buts à 20. Bah, ça va être le cas de pas mal de nos joueurs. On l'a vu, là, on parlait tout à l'heure de Moreira à Lyon ou de ce genre de joueurs-là.
Mais les Anglais ne prennent même plus des mecs pour faire des culs buts, Daniel. Non. Eux, ils prennent même plus des mecs pour les culs buts.
Ils prennent.
Bah, voilà. Ils ont l'oseille, ils prennent.
Il n'y a personne. Non, mais ils vont pas faire de culbute, les Anglais, parce qu'il n'y a pas de marché au-dessus.
Je veux dire qu'ils sont même plus dans un truc de on va le revendre au même prix, ils on va faire une plus-value.
Ils dépensent l'argent qu'ils ont.
Ouais, bah pour moi, plus t'as d'argent,
C'est comme certaines personnes que tu vois dans des restos, des mecs qui ont de l'oseille, ils commandent plein de trucs sur la carte et puis ils bouffent pas.
Voilà. Ou alors les mecs qui ont tellement d'oseille qui veulent mettre que des grandes marques et qui finalement sont mal habillés.
Exactement, Kevin. C'est un autre exemple qui me plaît.
J'aimerais quand même faire le point sur les ventes à Strasbourg. Parce qu'il y a des trucs un peu dingues. Donc écoutez les prix. Hein. Moreira, 50 millions vendus à Milan.
Oui.
Enciso, on l'a dit, 35 millions vendus à Ipswich. Ipswich qui a aussi payé 5 millions pour Gary O'Neill. C'est quand même.
Gary O'Neill, ouais. Ça rentre. Ça rentre à Strasbourg, chez Blue Coach.
Attends, un coach à 5 millions, c'est beaucoup. Hein.
Plus, plutôt,
attends, ils sont venus.
Plutôt claqués,
ils sont venus pour ça, Blouko. Non, mais c'est une énorme réussite.
Tu ajoutes à ça Barco. Barco, 35 millions.
Bon, mais là, c'est entre frérots.
et Méga, 25 millions.
Oui, mais Méga qui ne jouera jamais.
C'est des joueurs qui appartiennent.
Très peu.
Voilà, c'est possible. Et là, ils ont vendu donc un jeune formé au club, Abdoul Ouattara, 20 millions à Ipswich. Depuis le début du mercato, Strasbourg a vendu pour 170 millions d'euros.
Ils devaient vendre aussi.
Blouko est venu et ils le font en un an. C'est fabuleux pour eux. En revanche, pour Strasbourg, je ne sais pas si c'est fabuleux.
Blouko, ils te disent, en fait, le modèle marche magnifiquement bien. Regardez ce qu'on a.
Eh ben, c'est fabuleux.
Les intermédiaires
pour, c'est fabuleux. Pour le Racing, je ne sais pas. Pour le Racing, je ne sais pas si c'est bon.
Parce que c'est sûr que là, je vais
investir l'oseille.
Moi, je ne sais pas quel joueur on a pour jouer contre Marseille vendredi.
Pour ne sortir un mec.
Il est là le drame du Racing. C'est que c'est pas un club ou une politique sportive qui est faite pour être performante.
Là, les gars,
faire du business et de la vente de joueurs.
On a des vendeurs.
Il faut reconvoquer Marc Keller et lui demander, parce qu'il est venu l'année dernière pour nous dire que c'était pas ça. Et nous, à chaque fois, on veut le croire. Il y a aucun problème qu'on l'aime beaucoup. Mais, le constat, au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face, quoi.
Bon, on va voir ce que ça donne, parce qu'il y a eu beaucoup de recrues aussi dans l'autre sens.
Pour l'instant, ça ressemble plus à une planche à billets qu'à un club de foot.
Mais en tout cas, là, c'est dingue. Vendre pour 170 millions d'euros, moi, j'en reviens pas.
Après, ils en avaient besoin aussi.
Oui.
Il y avait un problème avec le...
Non, mais t'as pris une amende, mais l'amende, par rapport à ce que t'as vendu là, c'est ridicule. L'amende, elle est de 10 millions.
Ils avaient investi beaucoup aussi.
Oui.
Donc, il faut voir. Bon, à la balance.
En tout cas, sur le rayon vente, effectivement, on a en France de très bons vendeurs, quoi. Je pense qu'on peut le dire, parce que
de toute façon, c'est tu vends ou c'est à vendre ou à laisser, quoi.
Pour être complet, à Strasbourg, les ultras ont communiqué. Il y a plus de grève. Vous savez qu'il y a la fameuse grève anti-Blouko.
Le quart d'heure, il saute.
Voilà. Donc les supporters disent, je pense que tout le monde a bien compris. Et c'est pas parce qu'on ne fait plus grève que on adhère au projet.
On est d'accord.
Voilà. On en vient donc à la Fédé. La Fédé qui est discrète sur le cas de Gianni Infantino. Donc il y a de nombreuses fédérations qui se sont déjà exprimées en disant nous.
Quel président de Fédé a dit je ne voterai pas ou je voterai?
Il y a des présidents. Alors attends, parce que j'ai un article là de Nicolas Pelletier sous les yeux.
Il n'y en a quasi pas. Il n'y en a quasi pas.
Ah bah il dit l'inverse.
Il n'y en a quasi pas.
Les Anglais, les Allemands, les Anglais, les Allemands, nous dit Nicolas Pelletier. Ils ont dit que.
Ok, donc ça fait beaucoup. Bah, il y en a beaucoup. Bah, tu m'en donnes deux là.
Je t'en donne deux. C'est des grosses fêlées. On sait que l'Afrique est aussi partagée.
Oui, mais t'as pas de nom. T'as pas de nom. Tu sais pas quel pays pense quoi.
Bah, là, je te dis les Anglais, les Allemands.
Donc moi, je vais te donner ma version. En fait, tout le monde. Enfin, l'été a été. Plus que mouvementé, ça a été le feu après ce qui s'est passé après la Coupe du Monde avec le fameux projet. Et là, clairement, il faut envisager que Gianni Infantino ne sera pas candidat au mois de mars. C'est ce qui se dit dans à peu près tous les milieux du foot, dans tous les organismes, que ce soit ECA, les fédérations, l'UEFA, la CONCACAF. On va pousser Infantino à la démission avant le mois de mars. Il est en train de compter ses soutiens. La semaine dernière à Salzbourg, d'ailleurs, pendant la finale de la Supercoupe, était présent le président de la Fédé marocaine ainsi que ton ami Motsepe. On se demandait bien ce qu'ils foutaient là, d'ailleurs, les deux.
Ils étaient invités.
Oui. Mais aujourd'hui, on est en train de compter. Et Philippe Diallo, il y a deux jours, je disais...
Motsepe, il était là parce que l'arbitre était l'arbitre somalien et c'est à ce titre-là qu'il avait été invité.
Et en l'occurrence, c'était un sacré pied de nez à Infantino d'avoir pris cet arbitre-là, on le sait. Donc ça, on va dire qu'on avait l'illustration, là, le symbole de la guerre entre FIFA et UEFA qui existe depuis longtemps maintenant. Donc en fait, la Fédé, elle va s'exprimer. Philippe Diallo, il a été clair sur le projet. Aujourd'hui, je crois que c'est sorti un petit peu partout. On le sait. Philippe Diallo ne votera pas Gianni Infantino. Il sera même un opposant important, au même titre que je pense quasiment tous les pays européens qui ont quand même menacé de boycott. Et la France était dedans. Il ne s'est pas encore exprimé. On est fin août. Il y a un COMEX, je crois, le 8. Donc, il va faire valider sa décision par le COMEX. Et dans la foulée, la France se mettra dans le rang des opposants à Gianni Infantino comme probablement la grande majorité du monde. On a beaucoup douté à un moment, il y a eu un trouble autour de la position de la Nouvelle-Calédonie, mais qui est une fédé indépendante finalement.
Oui, Nouvelle-Calédonie et Tahiti, on leur voit.
Voilà, on, on leur voit, ils sont indépendants. C'est pour ça que tu dis souvent d'ailleurs que la FIFA, il y a plus de pays qu'à l'ONU.
Tout à fait, 211 à la FIFA.
Mais eux, ils sont indépendants et ils vont décider ce qu'ils ont envie de décider. Mais aujourd'hui, la balance dans le monde, elle penche clairement contre Gianni Infantino, et en tout cas pour ce qui concerne notre Fédé. Et moi, j'en suis très content, parce que Philippe Diallo, depuis qu'il est arrivé, il a quand même participé à la loi. Il a soutenu les sénateurs, là, on en a beaucoup parlé avant les vacances, la fameuse loi pour le sport qui a été votée en France, là, pour enfin mettre fin à tout le bordel qu'on décrit depuis des années. Et là, ça m'aurait profondément déçu qu'il ne s'exprime pas ou qu'on sache pas rapidement qu'il est un opposant à Infantino. Il l'annoncera début septembre. Je pense même qu'il viendra dans l'after, d'ailleurs. Et je trouve que c'est important que la France soit alignée dans ces... avec pas mal de pays européens contre Infantino. Mais là, aujourd'hui, vraiment, ce qu'on dit, c'est qu'il ne sera même pas à l'élection, Infantino. Mmh. Parce qu'il y a quand même le numéro 3, là, Kevin Lamour, qui s'est fait virer.
Après ses déclarations, contre le projet d'Infantino. Donc, il est servi de fusible.
Ouais, bien sûr. Ouais,
non, mais c'est quand même rassurant.
Les pays africains, tout le monde disait.
Après, Infantino, vu l'ensemble de son œuvre récente, finalement, tant mieux.
C'est ce que j'allais dire.
On est opposant Infantino depuis 2015. Ça fait depuis la haute trahison à Platini qu'on est contre Infantino. Aujourd'hui, on a dit que l'Afrique était avec lui. Non, Motsepe, le Maroc sont.
L'Afrique est divisée. C'est du 50-50 aujourd'hui.
Exactement. C'est même un peu plus que 50% contre Gianni Infantino.
Après la Coupe du Monde catastrophique.
Ça m'aurait scié que les Africains soutiennent Infantino.
Après la Coupe du Monde catastrophique, pas forcément dans l'organisation, mais surtout dans une communication abyssale et cataclysmique, notamment avec son ami Donald Trump, que Gianni Infantino soit maintenant en grande difficulté, j'ai envie de te dire, ce n'est rien d'autre que rassurant, parce que sinon tu te disais vraiment que le monde et le monde du sport, le plus grand sport du monde qui est le football, allait vraiment dans un chemin qui était. Je ne dis pas que le suivant sera meilleur, je ne sais pas, j'attendrai de voir, mais franchement.
Bien de parler de ça, parce que les réflexions en ce moment sont justement dans l'analyse de ce qui a été la FIFA sur ces dernières années, avec des présidents un peu tout puissants.
Exactement.
Qui au bout d'un moment vrillaient dans une espèce d'autoritarisme, ça ressemblait à une espèce de dictature où les gars décidaient tout seuls. C'est un peu comme ça d'ailleurs qu'Infantino est tombé, quand il s'est réveillé le matin pour dire bon ben, on va faire ça, on va vendre des parts de la FIFA, machin, mon ami Trump, il y a des gars dans sa famille. Enfin, c'était un délire complet.
Ouais.
Donc fort de cette analyse, on est en train de se dire qu'on pourrait soit une présidence tournante, soit des mandats de 2 ans, avec justement l'idée qu'il faut.
Et puis avec impossibilité de se représenter peut-être aussi.
Exactement, qu'on arrête l'idée du président tout-puissant dans toutes les confédérations aujourd'hui. C'est un petit peu l'idée directrice.
On ira un peu plus loin jeudi soir, parce que Nicolas Pelletier, qui suit tout ça, sera avec nous dans l'after.
Il est taquet, le jeune Pelletier là-dessus.
Exactement.
Et bien.
Exactement. C'est fini pour ce soir, il est minuit. Kevin, merci.
Salut.
Daniel, merci. Demain, l'after sera là, dès 20h, Génération After, 22h, l'after. Grosse page mercato demain, on balayera notamment tous les gros dossiers qui restent là en Ligue 1, de Barcola à Fofana, à Guiri. Ce sera demain soir dans l'after, bien sûr. Bonne nuit à tous.
RMC, l'after foot.